Salut, je suis Enzo Colucci et tu écoutes la cinquième et dernière saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Depuis janvier 2020, un mardi sur deux, je pars à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles viennent témoigner d'un tournant de leur vie. J'essaie de traiter tous les sujets possibles. Peine de cœur, burn-out, échec sportif, maladie, échec scolaire, surendettement. Pour vraiment montrer que l'échec, c'est pas juste professionnel. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec les guerrières et les guerriers que j'ai reçus, je peux t'affirmer que l'échec, c'est jamais une fin en soi. L'adversité est une source de motivation incomparable si on a les armes pour l'affronter. Alors ce que je te propose, c'est de trouver ces armes qui nous manquent à travers le partage d'expériences de personnes qui ont vu leur vie prendre un tournant inattendu, mais qui ont su en tirer le meilleur. J'espère que ça va te motiver. Hello, hello, et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, je suis chez Élise. Salut Élise.
Salut.
Ça va?
Ça va et toi?
Trop bien. Comme on se disait un petit peu en off, c'était le dernier épisode que j'enregistre.
Je suis très touchée de clôturer cette belle aventure.
Ouais, hein, putain, ça me fait un petit truc quand même ce matin. Et tu seras du coup l'avant-dernier épisode de la dernière saison. Donc hyper content de le faire avec toi, Élise. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent?
Bien sûr. Je suis Élise Hameau, j'ai 38 ans, j'habite à Paris avec mon mari et mes trois enfants. Des jumeaux de 5 ans, et c'est important de le noter pour plus tard, vous allez voir, et un petit garçon de 2 ans, parce que ça ne nous suffisait pas. Je suis directrice artistique en freelance aujourd'hui depuis 3 ans, et j'aide des marques à se lancer ou à se relancer, des marques de mode, en refaisant leur plateforme de marque, en leur designant des collections, en leur refaisant leur direction artistique, image pour les shootings photos, les vidéos, etc. Enfin, bref, une vision à 360 degrés du produit et de l'image d'une marque.
Trop stylé. Et pour la petite histoire également, on a été mis en relation du coup par 60 000 rebonds.
Tout à fait, qui a été une association qui m'a beaucoup aidée à la fin de mon aventure entrepreneuriale quand j'ai arrêté la création de robes de mariée qui était... ce pourquoi j'ai eu une petite renommée il y a quelques années.
Voilà, on a un petit peu spoilé ce qui va se passer du coup après, mais c'est très bien. On mettra du coup bien sûr le lien au site de cette belle association 60 000 rebonds, ceux qui voudront aller la voir avec grand plaisir. Et Élise, avant qu'on rentre du coup dans le vif, est-ce que tu peux donner toi ta vision, ta définition de l'échec? C'est quoi pour toi?
Alors, c'est marrant parce que on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais te le redire. J'ai un peu de mal avec ce mot échec, qui pour moi est hyper négatif. Et dans ma vie, j'ai toujours essayé de trouver le positif dans toutes les situations. Alors, c'est parfois pas évident, hein, on va pas se dire que je me réveille tous les matins en me disant que je suis une énorme winneuse. C'est plutôt comment je transforme un problème ou une situation désagréable en quelque chose de positif. En général, je prends 2 jours où je pleure, où je me dis que c'est catastrophique, que ma vie est finie. Et puis, c'est exactement ce moment-là qui me permet de mettre le petit coup de pied tout au fond du gouffre pour remonter et pour me dire, bon, bah voilà, maintenant, ça y est, ça suffit. Tu t'es bien apitoyée sur ton sort, ma petite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelles sont les actions à mener? Voilà. Donc, pour moi, l'échec, c'est pas une fin en soi. C'est plutôt le commencement de quelque chose de cool.
Voilà. Et la fin d'un gros pot de glace du coup après ouais. 2 jours.
Moi c'est plutôt je me noie dans les séries.
Allez, ah, voilà, pas mal
les
aussi.
Trucs qui peuvent bien anesthésier le cerveau, ça j'adore.
Ouais, on est bien d'accord. Mais je suis un peu comme toi, je t'avoue, c'est assez drôle. C'est la même chose. Tu chiales un bon coup, tu te mets dans ton coin tout seul, tu te recroqueville, juste tu restes pas comme ça indéfiniment quoi.
Alors le truc c'est qu'avec mes enfants maintenant je n'ai plus le droit de faire ça.
Ah oui.
Donc voilà, faudrait peut-être que je m'octroie ça une fois ou deux, tu vois, un petit moment de rien, mais. Ouais.
Tu m'étonnes. Non, bah écoute, très cool, très aligné avec ce que tu dis, avec ta vision que tu as du coup, Élise. Et bah, on va pouvoir embrayer sur la suite où tu as un petit peu expliqué, enfin très rapidement, un petit peu spoilé avant. C'est que toi, du coup, tu avais monté une boîte de robes de mariée.
Exactement.
Donc c'était il y a.
J'ai commencé en 2012.
2012. Et puis au bout d'un moment, bah, tu as ressenti en fait ce besoin d'arrêter justement, donc pour pas arriver peut-être à cette notion d'échec dont on se parle, mais juste l'envie de faire autre chose parce que tu voyais que ça t'apportait plus autant, en tout cas, tant doute de plaisir, j'imagine.
Bah, alors pour te raconter un petit peu la genèse de ça, c'est qu'en fait, bon, moi j'ai fait des études de mode Et après, j'ai fait des études de journalisme. Et j'ai été journaliste de mode pendant 10 ans. Et j'ai senti qu'il y avait un vrai boulevard à un moment donné. J'en avais un peu marre d'écrire sur les autres et je me sentais prête à écrire ma propre histoire. Donc j'ai cherché dans quel secteur je pouvais aller. Et c'est vrai qu'il y avait un boulevard dans la robe de mariée à l'époque, donc en 2010-11, quand j'ai commencé à avoir l'idée. Je suis partie à New York, j'ai tricoté avec les filles de Wool & The Gang. Je me suis dit, mais la création, en fait, c'est ça que je veux faire. Les robes de mariée, il n'y avait personne sur ce terrain parce que c'était quand même vachement ringard à l'époque. C'était des énormes meringues, etc. Et il y avait quelques créatrices qui commençaient à émerger et dont on parlait dans les magazines de mode, ce qui était hyper nouveau parce que bon, bah, les magazines de mode ne voyaient que les grands créateurs et la mariée restait toujours le truc un peu ringue, quoi. Donc là, c'était assez nouveau, cet engouement vers une créatrice, en l'occurrence, qui s'appelait Danefit Manivet. Et je me disais, mais c'est fou, personne vient la challenger sur ce terrain. Il se trouve que c'était cool parce que ça a demandé une petite mise de départ, mais pas grand chose, que c'est que de la précommande. J'étais vachement précurseuse à l'époque. Donc les filles venaient, elles essayaient un proto, pas dans leur taille, et on refaisait la robe entièrement sur mesure pour elles. Donc ça tombait bien, c'était du Made in France, enfin du Made in Paris, parce que j'avais un atelier à Paris, avec des très belles matières. Donc en fait, ça correspondait à tout ce que je voulais. Et surtout, en tant que journaliste, je voyais une super histoire à raconter, parce qu'évidemment, les histoires d'amour, c'est un petit peu ce que je préfère dans la vie et les choses les plus chouettes à raconter. Donc je me suis dit, bon, allez, on essaye, on verra bien. Et en fait, My Little Paris a vu ma page Facebook que j'avais bricolée avec quelques photos faites avec une copine. Enfin voilà. Et au bout de... Ils ont fait une newsletter sur moi. Et le lendemain de cette newsletter, il y a eu un raz-de-marée. C'est-à-dire que j'étais pas du tout préparée. J'avais une demande de rendez-vous toutes les 5 minutes, un like sur ma page Facebook toutes les minutes. C'était de la folie. Ils me présentaient comme la nouvelle Delphine Manivet, qu'il fallait absolument aller chez moi et tout. Et en fait, j'étais pas du tout prête à ça. J'avais demandé à mon atelier combien de robes on pouvait faire maximum, en me disant je ferais quelques robes, je continuerai mes piges, etc. Sauf que elle m'avait dit bah, une centaine, mais pas plus, sinon on va commencer à être débordés. Mais enfin, arrivons déjà à 100. Moi, j'y croyais pas du tout. Et en fait, je les ai vendues en 3 mois. Donc, au bout de 3 mois, j'étais obligée d'arrêter les commandes. Et en fait, bah, ma vie d'entrepreneuse a commencé comme ça. Parce que j'ai eu des demandes de wholesale, j'ai eu des demandes de prêt-à-porter. Enfin, voilà. Il y a eu plein de choses qui se sont ouvertes à ce moment-là. J'avais pas fait d'école de commerce. Je savais même pas ce qu'était un business plan. Mon cousin, à l'époque, m'avait vachement aidé au tout début pour essayer de structurer un peu la société. Mais j'avais toujours ce petit complexe-là de me dire, bah, voilà, je ne suis pas une vraie chef d'entreprise, quoi.
Syndrome de l'imposteur.
Exactement. Je suis une créatrice. Voilà. Mais j'ai dû embaucher des gens. En fait, à chaque étape, je faisais selon les besoins de ma société, en me rendant compte que je n'étais pas mauvaise. Et puis j'apprenais des nouvelles choses et c'était chouette. C'est à ce moment-là que je suis rentrée, au bout de 5 ans, au Réseau Entreprendre Paris.
Okay.
J'étais lauréate, donc c'était un peu une consécration pour moi parce que moi, la petite créatrice de mode, ben, j'arrivais avec zéro background commerce, finance, etc. J'arrivais à rentrer au réseau. Et donc l'idée était vraiment de troquer ma cape de créatrice contre le costume très sérieux de chef d'entreprise. Et donc, lever des fonds, etc. J'ai eu un super suivi pendant 2 ans, enfin avec ses défauts et ses qualités, mais globalement plutôt positif. Sauf qu'au bout des 2 ans, poum, j'ai tout arrêté.
Et qu'est-ce qui a fait du coup qu'au bout de 2 ans, on se dit « Ok, stop, no more ».
Eh bien, il y a eu plein de choses conjointes. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là de la société, j'avais 7 employés, un atelier de confection et retouche intégré, un atelier usine à Rennes, un autre à Paris, un autre en Bulgarie pour le prêt-à-porter. On faisait tout nous-mêmes, on recevait des centaines et des centaines de clients tous les jours. Enfin, c'était vraiment un rythme très soutenu. J'ai eu des jumeaux, avoir un enfant était prévu, avoir des jumeaux, on le savait pas avant, on était ravis, mais c'est une grossesse à risque et qui comporte quand même pas mal de risques. Donc en fait, j'ai été alitée au bout de 7 mois de grossesse, donc sans possibilité d'aller au boulot. Et en plus de ça, comme j'ai fait des menaces d'accouchement prématuré, l'hôpital m'a interdit d'ouvrir un mail du boulot. Donc tous les mails passaient au filtre de mon mari parce qu'il fallait pas que ça me stresse.
Et lui, il bossait dans quoi à ce moment-là?
Mon mec, il est head of design d'une boîte de télémédecine. Il m'a toujours énormément aidée. C'est lui qui a fait tout le design de mes sites, etc. Donc, il était très, très au courant de tout ce qui se passait. Il est extrêmement soutenant là-dedans. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on se retrouve à se dire « Bon, je ne peux plus être maître de mon bateau. En fait, ça doit se faire sans moi. » Et
t'as pu déléguer en interne à ce moment-là aussi?
Oui, j'avais un.
T'avais des très bonnes personnes, j'imagine.
Une super nana qui a commencé en stage chez moi et qui, Amandine, que je remercierai jamais assez, qui est arrivée à la fin, qui était vraiment mon bras droit, qui m'a aidée sur tous les sujets et qui a pris énormément sur elle à ce moment-là. Donc c'était vraiment génial. Donc ça a permis de faire que la boîte a tenu et qu'on a pu gérer les problèmes et moi d'accoucher sereinement. Un congé mat de jumeaux, normalement, c'est 6 mois, je crois. C'est 6 mois. Et moi, j'ai pris 2 mois et demi. Les enfants sont allés à la crèche à 2 mois et demi, sauf qu'ils ne dormaient pas. Donc, en fait, pendant un an, j'avais ce suivi du réseau Entreprendre avec cette envie de me lever des fonds, mes enfants qui ne dormaient pas, ma boîte à gérer, des nouvelles collections à sortir, des nouvelles ambitions. Bref, j'ai tout mené de front. Pendant un an, c'était vraiment super. Sauf que j'ai pas compris quand je suis arrivée, donc c'était en juillet de l'année après, mes enfants allaient avoir un an. Je suis partie en vacances et là je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de rentrer à Paris. J'ai pas envie de reprendre le boulot, j'avais plus envie d'y aller quoi. Et je me suis dit, il y a quand même un petit truc qui gratte. J'ai laissé passer ça, j'ai mis ça un peu sous le tapis. Et puis quelques mois après, je n'ai plus pu me lever. Et en fait, il se trouve que j'ai eu une espèce d'ulcère à l'estomac. Enfin, on saura jamais exactement, mais je vais passer les détails pas trop glamour. Mais en gros, c'était, je ne pouvais plus faire un pas sans vomir.
Putain.
Donc tout mon corps m'a dit non. En fait, ça n'est pas possible. En fait, tu peux pas aller au boulot. Au début, on croit que c'est une gastro, puis quand même, ça dure une semaine, 10 jours, 2 semaines. Bon. Il y avait des gens qui étaient intéressés pour investir, j'envoyais pas les papiers, alors que j'avais tout bien préparé. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas possible, mon quotidien ne me plaît plus. Je ne veux plus faire ce métier parce que ce que j'aime, moi, c'est créer. Et je me rendais compte que je passais plus de temps avec mon comptable, les banques pour gérer les BFR, qu'avec mon équipe créa. Et moi, c'est ça qui m'anime, c'est me lever le matin et imaginer tout ce que je peux faire en dessin, images. Enfin, la création, c'est mon moteur. Donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et à ce moment-là, j'ai rencontré une autre chef d'entreprise qui avait à l'époque un bar à Chignon qui s'appelait 365C, qui avait plein de corners partout dans Paris, hyper successful. Et elle me dit, écoute, moi j'arrête. Moi je dis, ah bon, mais on peut? C'est autorisé? Elle dit, ouais, moi je suis enceinte de mon deuxième, la première grossesse horrible, alitée comme moi. C'était une cata, là c'est pareil, mes investisseurs, je dois refaire un tour de table, j'en ai marre, je suis fatiguée, en fait j'arrête.
Juste pardon, je reviens dessus, quand t'as arrêté du coup ton business, tu l'as fermé, tu l'as redonné à quelqu'un, quelqu'un a récupéré ça, comment ça s'est passé?
Alors là, à ce moment-là, j'avais pas encore arrêté, mais pour terminer la petite histoire, conjointement à tout ça, je me dis, c'est ok d'arrêter une boîte, en fait on a le droit, et les conséquences sont pas graves, hein, je vais pas aller en prison. Deux, mon corps veut plus, je suis pas contente de mon quotidien. Et trois, à ce moment-là, on était passé il y a 7 ans de 3 créatrices à faire un style un peu similaire à plus de 200. Donc la part de gâteau s'était extrêmement réduite. Je suis partie en vacances sur un catamaran. C'était vraiment le don du ciel. Le voyage d'une vie avec mes deux enfants, des potes pour un mariage dans les îles Grenadines, le truc que tu fais jamais, tu vois. Folie. Mais c'était prévu depuis des années. On y va. Et là, je reçois des lettres de l'URSSAF, des lettres de mon propriétaire qui me réclame les 3 mois de loyer. Enfin, plein de dettes qui s'accumulent. J'envoie ça à mon papa qui est avocat spécialisé dans les entreprises en difficulté. Et je lui dis, qu'est-ce que je fais? Il me dit, oula. Alors, moi, je vais te faire un petit plan de redressement. Donc, il faut que tu vires telle personne, toi tu reprends tous les rendez-vous clients, tu fais ça en plus, tu coupes les gaz sur plein de choses. Et j'étais là, mais ça veut dire qu'en fait, je reviens tout au début, où moi je refais tout, Alors que justement, tout ce que j'avais appris et qui était chouette à apprendre, mais que je ne voulais plus faire dans mon quotidien, et donc en fait, me retomber dessus, et la création, il n'y en avait plus, quoi, parce qu'il fallait mettre la pédale douce sur les créations, sur les nouveaux modèles, sur les shootings photos, moins dépenser et tout. Donc tout ce qui me plaisait, en fait, fallait que je le vire pour sauver cette entreprise. Et là, j'avais 2 semaines pour choisir, et c'était pile les 2 semaines où j'étais dans les Grenadines avec tout ce qui m'importait le plus au monde, mes amis, ma famille, le soleil, un cadre idyllique. Donc évidemment, le choix n'a pas été évident, mais c'est fait de manière assez serein, parce que à ce moment-là, c'était le lieu s'y prêtait. Et je me suis dit, j'arrête, stop. Mm-hmm. Donc, je suis rentrée en France. Mon père a mis tout en place. Alors je ne me souviens plus exactement, il faudra peut-être voir des gens spécialisés, parce que moi, mm-hmm. je ne me souviens plus. C'était un peu un brouillard à ce moment-là. On a été beaucoup au tribunal de commerce. On a demandé à continuer l'activité, donc j'ai liquidé. Mais on a demandé à continuer l'activité pour que toutes les mariées qui avaient commandé leur robe puissent avoir leur robe pour leur mariage.
C'est cool, ça.
Parce qu'en plus, elles avaient payé un acompte. Donc là, elles payaient la fin de leur robe, ça permettait d'éponger certaines dettes. Et finalement, ça s'est fait de manière très douce, avec extrêmement peu de dettes et un arrêt complet. J'ai pas voulu revendre, pour répondre à ta question de tout à l'heure, la marque, parce qu'elle portait mon nom.
Ok.
Donc... sans mon nom, la marque n'avait pas vraiment de valeur et je ne voulais pas que mon nom soit dénaturé au profit d'autres personnes avec des créations qui ne me ressemblaient pas.
Normal.
Le Inès de la Fressange Gate m'a suffi. Inès de la Fressange avait monté sa boîte avec son nom. Pendant des années, elle s'est battue pour le récupérer parce que ça a été revendu. Et elle a enfin pu le récupérer, mais entre-temps, c'était des débats judiciaires de dingue. Enfin bref, l'horreur. Donc... moi, c'était pas ça mon but. En plus, je sais pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, je fais du freelance et je suis très heureuse. Mais peut-être qu'un jour, l'envie reviendra de remonter quelque chose et mon nom me servira. Donc, voilà.
C'est hyper intéressant, du coup, ce que tu dis, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat est un peu venu à toi, j'ai envie de dire, un peu naturellement, là, avec l'histoire au départ, que tu nous comptes avec My Little Paris, où tout se décante, où tu as juste ton petit projet au départ. Et c'est drôle aussi de voir que, en fait, naturellement, tu as vu que l'entrepreneuriat en tant que tel, enfin, être entrepreneur, même si tu as ce côté-là un peu ancré en toi, parce que tu as toute cette créativité dont tu parles, etc., tu as su rapidement te dire, en fait, c'est pas pour moi ça. Tout ce côté, genre, gestion de business, etc., chiffres, moi, en fait, ce qui me fait kiffer, c'est la créativité. Et c'est stylé de voir que tu arrives à lâcher prise, même si tu es passé au travers de périodes, j'imagine, hyper douloureuses, on passe rapidement dessus, mais quand tu n'arrives pas à foutre un pied devant l'autre et que ça dure genre des semaines, je pense que tu es un peu au plus bas. Mais c'est beau de voir que du coup, tu arrives toi-même à t'en rendre compte et te dire en fait, non, mais j'accepte que ce n'est pas pour moi, quoi. Et à la fois, tu es quand même encore entrepreneur aujourd'hui parce que tu es encore freelance. Donc c'est ça qui est drôle aussi.
Bah alors ça, tu vois, c'est un autre...
T'es solopreneur.
Ouais, c'est exactement. En fait, c'était vraiment une nécessité. Mais je dois dire, et avec le recul, que j'ai cette qualité, je pense, parce qu'on me l'a beaucoup dit, et force est de constater qu'avec les expériences qui se sont multipliées, de switcher beaucoup et de rebondir. C'est là où je peux faire une petite parenthèse 60 000 rebonds. Parce que, il se trouve que dans ma vie, j'ai été journaliste pendant longtemps. J'ai switché, je me suis dit, tiens, je veux être créatrice, je l'ai fait. Je veux plus être chef d'entreprise, je veux faire autre chose, je l'ai fait. On peut appeler ça de la chance, on peut appeler ça un état d'esprit. Je ne sais pas encore ce que c'est. Il se trouve que ça m'appartient, je suis très contente et je pense que c'est une de mes bonnes qualités. Et quand j'ai arrêté la société, c'était marrant, c'était au tribunal de commerce, le juge a dit, mais mademoiselle, vraiment ce que vous avez fait, peu de gens l'ont fait, faire autant de chiffre d'affaires avec aussi peu, vraiment, bravo, c'est un peu triste que vous liquidiez, mais je comprends, mais en tout cas, s'il vous plaît, on a besoin de gens comme vous, n'arrêtez pas d'entreprendre. Évidemment, je suis ressortie en pleurs.
Tu m'étonnes.
Et en sortant, je tombe sur une brochure de 60 000 rebonds qui me dit bah, vous avez arrêté, mais c'est pas la fin.
À la sortie du tribunal ?
Ouais. Non, tu vois, je suis encore un peu émue, c'est marrant.
Énorme.
À la sortie du tribunal. Je me dis, je vois ça comme un petit signe. Et aussi au réseau Entreprendre, on m'avait conseillé aussi 60 000 rebonds en me disant bah, tu sais, la suite du réseau Entreprendre pour ceux qui ont échoué, c'est,
énorme.
C'est 60 000 rebonds. Je les contacte et en fait, c'était vraiment super. Parce que on a le droit. Déjà moi, c'était un accompagnement qui continuait sous une autre forme en fait, parce que comme j'avais été accompagnée dans le développement de ma marque, bah là on m'accompagnait dans l'arrêt de ma marque et je me sentais vachement moins seule déjà, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur et qu'on arrête, déjà on est seul, mais quand on arrête, on se sent encore plus seul. Et là, ça permettait de discuter avec d'autres entrepreneurs qui avaient arrêté. C'est là où je me suis rendu compte que ma situation était quand même hyper privilégiée parce que j'avais pas de grosses dettes laissées, zéro dette personnelle.
J'avais une famille autour, t'as tes enfants,
exactement.
T'as ton mari, t'es quand même entouré.
J'étais très jeune et c'est vrai que c'était pas le cas de la plupart des autres entrepreneurs qui étaient parfois entrepreneurs depuis des années avec des boîtes qui avaient des dizaines et des dizaines d'années derrière elles. Enfin, et puis des personnes plus âgées, souvent des hommes. Bon, je ne voudrais pas faire de sexisme, mais ils se rendent quand même compte que les hommes ont plus de mal à rebondir plus vite que les femmes. Parce que dans le réseau, les femmes ont vraiment, restent peu de temps. Elles sont vraiment...
Ça doit être l'ego, ça, je pense.
C'est peut-être
un peu l'ego masculin, ça, qui fait qu'on n'arrive pas à rebondir très vite.
Voilà, sans vouloir faire de mauvaises généralités,
mais en tout cas,
donc, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que... Les femmes avaient peut-être ce côté plus facilement switcher.
Et l'accompagnement du coup de 60 000 rebonds, du coup, il consiste en quoi ? Donc tu rencontres des personnes, c'est à quelle fréquence ? Enfin, comment ça s'est mis du coup là-dessus en place pour t'aider justement à repartir sur une vague plus saine ? Parce que là, on est dans la phase descendante, on est au bas, t'es plein dans l'acceptation parce que du coup, tu fermes ta boîte et tu tombes sur ça, qui va te permettre derrière de mettre sans doute justement des actions, des trucs. Enfin, comment ça s'est passé du coup ?
Eh bien, avec 60 000 rebonds, il y a un rendez-vous mensuel avec d'autres entrepreneurs où chacun raconte un petit peu où il en est et ça permet de relativiser. Il y a aussi des experts qui sont là et qui peuvent aider sur les sujets bancaires, d'avocats, etc. On a un parrain ou une marraine. Moi, en l'occurrence, c'est une marraine qui s'appelle Hélène Dutilleul, qui est coach aussi en parallèle, qui m'a énormément aidée, qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et on avait des discussions infinies où elle avait quand même envie de me mettre devant les yeux que... Parce qu'évidemment, à un moment, mon envie de rebond était dans un CDI. Tu vois, très classique, trouver un poste de directrice artistique dans une boîte de mode en CDI. Elle me disait, t'es sûr, hein? Ok, vas-y, fonce. Puis je me faisais chasser par des grands groupes. J'étais en process pour Princesse Tam Tam. Je suis allée jusqu'au bout et finalement, j'ai pas été prise. Et elle me disait, t'es allée avec quelle énergie? Ouais, d'accord, continue, vas-y. Puis un jour, elle me dit, non, mais Élise, on va pas. Le CDI, c'est pas pour toi. Hein. Toi, t'es free. Tu veux le CDI, franchement. Et j'avais du mal à l'accepter. Et en fait, merci Hélène, bien sûr que j'aurais été malheureuse comme une pierre en CDI et qu'aujourd'hui en freelance je suis beaucoup plus heureuse. Mais donc c'est ces personnes-là et on a un coach aussi qui aide justement au deuil et au rebond qu'on voit sur 6 mois avec 6 ou 10 séances, je ne sais plus, d'une heure et qui va nous faire plein d'exercices. Donc c'est un coach personnel qu'on a juste pour nous. Et tout
ok,
ça
en one-one.
En one-one.
Ok.
Vraiment sur... notre parcours, où est-ce qu'on veut en être, donc avec des mind maps. Pour moi, en plus, il fallait que ce soit très créatif et très visuel. Donc, il se mettait à m'apporter, toujours des feutres, des feuilles pour que je puisse dessiner mon avenir, mon environnement et tout ce que je voulais faire et tout. Et c'était hyper intéressant.
Et donc, tout ça, c'est pris en charge donc à 100% par l'association.
Exactement, je n'ai pas dépensé un centime.
C'est ouf. Et pour y rentrer, du coup, j'imagine qu'il y a quand même un pseudo dossier, pour... un petit peu analyser ce qui t'est arrivé, etc.
Oui, on remplit. Alors d'abord, il y a un entretien téléphonique. Moi, j'avais envoyé un mail. Puis dans mon souvenir, j'avais discuté longuement avec deux personnes de l'association. Et puis, il y a un dossier, effectivement, à remplir avec où on en est, etc. Mais après, je sais qu'eux ont vraiment envie d'avoir de plus en plus d'entrepreneurs et leur en rebond. Parce que ce n'est pas des anciens entrepreneurs, c'est plutôt des entrepreneurs en rebond. Pour aider le maximum de gens et donc ils sont toujours en recherche de nouveaux entrepreneurs et de rayonner Et je trouve ça incroyable, l'action qu'ils font. Hein. C'est vraiment super.
Trop cool. Et qu'est-ce qui... Une fois qu'on sort un peu tout ça de 60 000 rebonds et qu'on passe un petit peu cette phase, qui dure combien de temps d'ailleurs qui,
là, deux ans. Alors moi, ça a duré deux ans et demi parce que j'ai eu un autre bébé entre-temps. Donc j'ai eu ma pause congé mat. Et congé mat pendant le Covid, hein, évidemment, pendant le confinement.
Pas drôle, ça.
Non, bof. Bof, drôle. Et mais c'est là où vraiment je me suis rendu compte, c'est marrant, hein, que la création était au centre de ma vie, parce que j'avais pas de boulot du tout. Covid, tout était arrêté, freelance, zéro free. J'étais avec mes enfants tout le temps, que j'adore, mais malheureuse comme une pierre si je ne pouvais pas exprimer ma créativité. Voilà, donc dans ma vie, j'ai besoin de ma famille et d'exprimer...
D'être
créative, sinon je suis malheureuse. Si j'ai pas Alain, je suis malheureuse.
Et est-ce que tu penses du coup que justement ta deuxième grossesse, du coup, elle t'a aidé aussi à ce moment-là à te poser, parce que t'es un petit peu obligé, et à prendre du coup encore plus de recul sur ta situation et encore plus l'accepter ?
Complètement. En fait, je m'étais dit à la fin de ma société, donc c'était en janvier 2019, je me suis dit, je veux rien faire pendant un an. Et il se trouve qu'au bout de 6 mois, j'ai été contactée pour du freelance que j'ai fait pour aider une marque à se lancer. C'était super. Mais encore une fois, je n'avais pas pris vraiment le temps de me poser. En fait, si je refais un petit peu le truc depuis le début, j'ai été entrepreneur malgré moi parce que ça s'est mis à marcher sans que je le veuille, sans réfléchir. Du coup, j'ai foncé tête baissée. J'ai pas eu le temps de me poser pour savoir ce que je voulais faire de cette boîte. J'arrête, je me pose un petit peu en me disant je vais faire des petits plats bio pour mes enfants et m'occuper d'eux, être femme au foyer. Bon, non, ça marche pas parce que moi, ça ne me convient pas. Hop, j'ai foncé sur la première opportunité de freelance qui était super. Ça m'a montré que je pouvais bosser pour d'autres personnes et je suis tombée enceinte. Et du coup, et après, il y a eu le Covid. Donc, pareil, de nouveau, forcé de me poser, mais c'était génial parce que du coup, j'ai pu me poser pour savoir ce que je voulais faire. J'avais eu cette première incursion de freelance qui me montrait que je pouvais aussi créer pour d'autres personnes et pas que pour moi. Et ensuite, j'ai eu des opportunités, j'ai eu beaucoup d'entretiens pour des CDI et bizarrement, ça n'est jamais abouti. En revanche, pour du freelance, là, je suis débordée de boulot avec des super clients que j'adore et je fais 1000 choses différentes. Et en fait, c'est finalement en faisant... J'ai pas eu un vrai plan, tu vois, en me disant je vais être free, je vais faire ci, je vais faire ça. Pour te dire, mon site est toujours pas fait de freelance parce que voilà. Mais les choses se sont faites un peu au fur et à mesure. Mais j'ai vraiment l'impression de, en ce moment... d'accepter cette espèce de format comment dire, je sais qu'il va y avoir un après, que cette période là est une transition que j'adore, qu'il y aura certainement quelque chose que je referai moi à un moment donné, réentreprendre quelque chose mais différemment, et que tout ce que je fais là en ce moment participe à ce futur projet que je ne sais pas du tout ce que ce sera. Mais totalement. Voilà, j'accepte le fait de pas savoir. Peut-être que ça durera encore super longtemps et que je ne referai pas d'entreprise un jour. Mais en tout cas, voilà, je sais que j'accepte l'inconnu. Chose que je ne faisais pas avant.
C'est très beau ce que tu dis. Là, c'est vrai. Et du coup, c'est une nouvelle marche, en fait, que tu mets en place. Enfin, un nouveau step, en tout cas. Et tu ne sais pas, c'est vrai, combien de temps ça va durer. Et la vie, elle est faite d'opportunités. Quand on t'écoute là-dessus, tu vois, c'est un peu le hasard, même si j'aime pas dire ça. Pareil, la chance, pour moi, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. C'est toi qui te crées, en fait, ta propre route. Et tu vois, si t'es tombé sur 60 000 rebonds à la sortie de tribunal, c'est parce que t'as pris toutes les décisions en amont, qu'il y a des jours-là, que t'as fait ce chemin. Et en fait, bon, c'est la vie, en fait. Et t'as su saisir ça au bon moment. Et c'est ce qui t'a permis derrière, après, de rebouger encore aujourd'hui ton espace freelance. Enfin, bon, bref, je suis hyper, hyper aligné avec tout ce que tu dis. C'est hyper beau. Est-ce que tu peux nous donner... je sais pas, genre 2-3 conseils, tu vois, pour des gens qui sont un peu en gros bad au moment de leur pas de leur création d'entreprise, mais enfin un moment un peu plus abouti, mais où ils sentent qu'ils sont un peu dans un cul-de-sac et ils savent pas trop quoi faire. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, si t'avais 2-3 trucs ?
Bah alors, le premier, c'est de se faire aider, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Moi, les associations, que ce soit Réseau Entreprendre ou 60 000 rebonds, ça a été vraiment un vrai pilier dans mes prises de décision. Ensuite, je dirais que essayer toujours de voir l'après. et de voir l'après bien. Bah, c'est un truc qui m'a toujours sauvée, c'est que je suis plutôt une fille un peu anxieuse de base, et à chaque fois je me dis, bon, cette situation-là, elle est merdique, comment je peux me projeter dans 2 jours, 3 mois, 6 mois, et qu'en fait tout se passe bien, et que ce sera juste un petit grain de sable. Donc la visualisation, moi, ça a toujours beaucoup bien, enfin très bien fonctionné pour moi. Et sinon, je dirais, un truc très bête, mais un truc que ma mère me disait tout le temps, c'est pendant mes chagrins d'amour nombreux avant de rencontrer mon mari, c'est fais confiance à la vie. Bêtement, si on se dit que ça va aller mieux, c'est un peu une espèce de méthode couée, mais faire confiance à la vie, se faire confiance, à rien n'est irrémédiable, on peut tout surmonter. Allons-y, quoi. Ah si, non, attends, je vais te donner mon plus meilleur conseil de ma vie.
Vas-y.
Est-ce que tu connais Jean-Claude Duss?
Ah ben, j'adore JC.
Voilà, et dans Les Bronzés font du ski, il a la réplique de ouf qui est « Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce ». Ça, c'est un truc qui m'a toujours motivée, parce que, comme tu disais, syndrome de l'imposteur, 1000 fois, j'ai fait 1000 métiers, et je me suis toujours lancée en disant « Au pire, ça marche pas, mais c'est pas grave, je fonce, et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise ».
Ouais, ça rejoint totalement le mantra que moi j'essaie un peu de divulguer à tout le monde sur les réseaux, qui est « et au pire quoi ?»
Exactement.
Ouais, JCD aurait pu avoir cette réplique.
JCD, c'est mon nouveau gourou.
Il est très bon. écoute Élise, merci beaucoup pour tout ce beau témoignage, cette belle histoire. Il y a plein de bons trucs à prendre là-dedans. J'espère que les gens du coup vont kiffer. Moi en tout cas j'ai kiffé, donc s'ils kiffent pas, tant pis pour eux. Et puis on va passer du coup aux questions pour la mention.
Parfait.
Question pour la mention.
J'ai rien préparé, hein.
Alors, tant mieux.
C'est freestyle.
Tant mieux. Mais c'est la première question, la question tant redoutée. Quelles sont pour toi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie, Élise ?
Fou. je vais plaider pour ma paroisse, mais en 1, c'est aimer. Aimer ce qu'on fait, aimer passionnément ses journées, aimer l'autre. Voilà, ça pour moi c'est mon premier truc. En 2, la créativité, pouvoir rebondir, trouver des solutions. On n'est pas forcément obligé d'être un artiste pour être créatif, on peut vraiment trouver de la création n'importe où et dans des idées innovantes, dans plein de choses. Et la troisième, j'hésite entre la joie et la gentillesse.
Faut choisir. Non, il y aura pas de bonus.
Ok.
Pas d'exception pour toi.
Je dirais la joie alors.
C'est trop cool. Super. Joie, amour et créativité.
Exactement.
Et comme on se disait, tu vois, il y aura tous les épisodes qui seront passés. Et il y aura jamais eu 2 fois la même réponse. Et c'est trop cool. Génial, Élise. Merci pour cette réponse. Et la prochaine question que j'ai pour toi, est-ce que tu as un livre, une série, un film, un podcast, un journal intime, je ne sais pas, quelque chose, quoi, un truc que tu as kiffé et que tu aimerais partager. Juste un.
Ok. Alors, il y a un livre qui a été assez fondateur pour moi, qui est un roman pour mon entreprise entrepreneuriale, parce qu'il y en a eu plein d'autres. J'hésite du coup.
Bon, si t'en as 2, t'as le droit d'en dire 2, vas-y.
Bon, il y en a un que j'ai lu ado et qui m'a marqué, qui s'appelle Le Passeur de Loïs Lory, qui est un livre sur une société dystopique, et c'est assez incroyable parce que c'est une société où chacun est prédéterminé avec un métier, et tout le monde, c'est une société en noir et blanc, et il y a un petit garçon qui, à la fin de cette cérémonie, n'a pas de métier, et en fait c'est parce qu'il est celui qui voit les couleurs, et donc il va être formé, etc., mais il refuse un peu ça parce qu'il aurait bien aimé être dans la norme, mais en fait il se trouve qu'il est différent, donc c'est toute cette acceptation de sa différence qui moi a beaucoup résonné dans ma vie quand j'étais ado. Et l'autre livre qui était plus un peu fondateur dans mon envie entrepreneuriale, c'est la biographie d'Elena Rubinstein, qui est partie de rien, qui est immigrée, je ne sais plus de quel pays de l'Est, en Australie, et qui a commencé nounou ou servante ou je ne sais quoi, et qui a fini à la tête d'un des plus gros groupes cosmétiques du monde. et c'est assez passionnant sa vie. Et je me suis dit, mais voilà, bah, une femme entrepreneur qui enfonce toutes les portes, c'est possible. Et bah, pourquoi pas moi?
Trop stylé. Et bon, le passeur, t'as dit le premier?
Le passeur.
Ah, ça m'a très, bien très, chauffé très aussi. Enfin, les deux, du coup, m'ont chauffé, mais celui-là, du coup.
Bah, okay. Pour toutes les personnes, les jeunes qui se sentent un peu en marge de... Voilà, moi, à l'école, c'était complètement mon cas. Mm-hmm. Bah, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Enfin, ça a beaucoup résonné, ouais. Et je le relirais bien aujourd'hui, tiens. J'ai vu une fille dans le train, il y a 3 jours, le lire, et je me suis dit, mais en fait, génial.
Et ben, je vais me chauffer d'aller à la librairie, l'acheter. Je dis, allez à la librairie, je vais pas la commander sur Amazon. Pourquoi? Parce que je vois une psy depuis pas longtemps, et du coup, elle m'a donné un conseil de ouf. Qui est, il faut toujours avoir un bon libraire. Parce exactement. Que du coup, ton libraire, il te connaît, il sait un peu te conseiller sur les bons choix et pas un petit peu aller par défaut et commander des livres parce qu'on a entendu un tel ou un tel te conseiller. Et c'est une très bonne remarque. Et je me dis, il faut que je me trouve un putain de libraire. Je vais acheter le passeur.
Ah, moi, si tu veux, là, les librairies. Bon, j'étais un gros rat de bibliothèque, hein, enfant. Je passais mes récré au CDI. Voilà, comme ça, vous savez tout. et tout en regardant les gens trop cool, en me disant, ah, j'aimerais trop être trop comme eux. Mais voilà, bref. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas cool de passer ses récré au CDI, ben, je me suis dit, il faut peut-être que t'arrêtes, en fait. Et t'essayes de te conformer. Et ouais, les librairies, moi, c'est vraiment le lieu. Tu vois, là, on déménage bientôt et c'est le seul truc qu'on va prendre avec mon mari. On est des gros, gros bouffeurs de livres et nos enfants aussi.
Trop bien. Moi, si j'avais pu commencer plus tôt, l'école m'a un petit peu dégoûté de ça et puis je m'y remets petit à petit. Donc, en tout cas, très bon conseil, très bon livre. Du coup, Élise, merci. Et il y a une dernière question qui est, quel est ton prochain objectif?
Eh bien, alors, mon objectif est très pragmatique et il est très prochain puisqu'on déménage à Lisbonne en famille. Sur un coup de tête, un peu, en août, voilà.
Trop stylé.
On a envie de vivre une aventure familiale avec nos enfants, leur apprendre une nouvelle langue. Et si on a un constat un peu négatif du monde qui est quelle vertu on pourrait transmettre à nos enfants pour survivre dans un monde où on ne sait pas ce que climatiquement il va se passer, et bien nous, on a choisi de leur offrir l'agilité, la souplesse, apprendre des nouvelles langues et pouvoir se déraciner et vivre n'importe où et se sentir à l'aise. Voilà, c'est notre but pour nos enfants.
Trop cool. Très bel objectif, encore une fois. Il reste un petit rituel de fin, Élise. Je ne t'avais pas dit avant
non,
ça exprès.
Non, tu ne peux pas prévenir.
Je t'ai pas dit ça. Le petit rituel de fin, c'est est-ce que tu peux résumer tout ce qu'on s'est dit en une punchline de fin, une phrase genre où on va dropper le mic après.
Grosse pression.
Bon, c'est des micros à 80€, donc on va pas le lâcher par terre non plus, mais bon, quand même.
Quoi? Bah, en fait, je vais reprendre. Hein. Je peux que reprendre du JCD, qui serait... Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Parce que je crois que ça résume bien toutes nos discussions.
Trop bien. Voilà. Franchement, mon dernier épisode enregistré, finir sur Jean-Claude Duss. Franchement, c'est trop stylé. Je pouvais pas faire mieux.
Pardon, il y en a peut-être
trop
qui t'ont
cool.
cité Nietzsche ou...
Ah non, mais ça, Jean-Claude Duss, il me va très bien. C'est très très cool. Ça c'est populaire, c'est parfait, on adore. Bah écoute, Élise, merci infiniment pour tout, pour ce dernier joli épisode, toute ta belle histoire, tout le meilleur. À Lisboa.
Merci, obrigada.
Ah, obrigada. Et bah écoute, merci Élise, passe une très belle journée, à très vite.
Merci.
Ciao, ciao. Salut. Une fois n'est pas coutume, ça me fait super plaisir que tu aies écouté l'épisode. Merci beaucoup pour le soutien. Comme d'hab, si c'est pas déjà fait, tu peux me permettre de faire connaître le podcast avec 2 actions super importantes. La première, c'est de mettre une note et un avis sur Apple Podcasts, comme tu sais. Et la deuxième, bah, c'est d'en parler autour de toi, bien évidemment. Tu peux également t'abonner à la page Instagram Phoenix Podcast et me suivre aussi sur LinkedIn. Je réponds toujours aux messages avec grand plaisir, même si j'avoue que je suis pas toujours hyper actif. Enfin, j'interviens dans les écoles et les entreprises pour réapprendre la notion d'échec. En gros, plus vulgairement, je mets des coups de pied au cul, mais avec sourire et bienveillance. Donc n'hésite pas à me joindre si tu veux que je te mette aussi un shoot de motivation au bureau. Je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de kiff.